Vous écoutez France Culture.
Zaki Laïdi, commentaire, observation.
Tout d'abord, on se trouve dans une situation effroyablement complexe, donc une complexité qui bien évidemment tient à la complexité du terrain syrien, qui a en l'occurrence rien à voir avec par exemple le terrain libyen. Mais on a affaire à aussi la formidable irrésolution politique d'un chef d'État, en l'occurrence du chef d'État américain, qui dans cette affaire est d'ailleurs victime à la fois de son imprudence et de sa prudence. Il est victime de son excessive prudence, puisqu'au fond, lorsque vous essayez de revoir la manière dont il a réagi à la crise syrienne depuis le début, dont je rappelle qu'elle a commencé en même temps que la révolution libyenne, bien, la première étape a été de penser que le régime Assad ne tomberait pas. Ensuite, qu'il finirait par tomber tout seul en suivant la vague des autres régimes arabes. Quand cette situation ne s'est pas produite, il a fortement pensé que l'engagement des pays arabes et de la Turquie dans la région l'aiderait à partir. Et puis, quand tout ça n'est pas arrivé, c'est-à-dire au mois d'août 2012, alors, il parle pour la première fois d'ailleurs sans consultation avec sa propre équipe de la fameuse ligne rouge qui concerne les armes chimiques.
Alors je vous propose, j'allais dire image à l'appui, son à l'appui, de faire très rapidement un petit décompte des déclarations qui illustrent ce que vous venez de dire. Août 2012, vous venez de le dire, écoutez donc, Barack Obama faisait de l'usage d'armes chimiques en Syrie une ligne rouge à ne pas franchir sous peine de punition.
Nous avons été très clairs avec le régime Assad, mais aussi avec les autres forces en présence sur le terrain, sur le fait que la ligne rouge pour nous serait franchie si nous commencions à voir des quantités d'armes chimiques déplacées ou utilisées. Cela changerait évidemment mon calcul et mon équation.
Le 4 décembre, quelques mois plus tard, 4 décembre 2012, le discours se durcissait et le régime Assad était clairement mis en garde.
Aujourd'hui, je veux être très clair sur Assad et ce qu'il commande. Le monde vous regarde. L'usage d'armes chimiques est et sera totalement inacceptable. Si vous faites l'erreur tragique d'utiliser ces armes, il y aura des conséquences et vous en serez tenu pour responsable.
Le 31 août, il y a donc quelques jours, nous sommes après le 21 août et la fameuse utilisation des armes chimiques, Barack Obama annonçait une série d'attaques ciblées contre la Syrie, mais demandait l'autorisation préalable du Congrès.
Après une délibération sérieuse, j'ai décidé que les États-Unis devaient mener une action militaire contre des cibles du régime syrien. Nous n'enverrons pas de soldats sur le terrain. Notre action sera limitée dans le temps et elle sera ciblée. J'ai pris une deuxième décision. Je vais demander l'autorisation d'utiliser la force aux représentants du peuple américain, les membres du Congrès.
Et il y a deux jours, depuis la Maison-Blanche, le ton était du coup beaucoup moins martial.
Le régime de Bachar al-Assad a admis qu'il possédait ses armes. Il a même dit qu'il rejoindrait la Convention sur l'interdiction des armes chimiques. Il est trop tôt pour dire si cette offre aboutira et tout accord doit prévoir des vérifications permettant de garantir que le régime Assad respecte ses engagements. Mais cette initiative est potentiellement de nature à dissiper la menace des armes chimiques. Sans qu'il y ait recours à la force, c'est pour ça que j'ai demandé au Congrès de reporter le vote pendant que nous poursuivons sur cette voie diplomatique.
Voilà.
Alors,
qu'il a dit.
Tout d'abord, si on revient à la fameuse ligne rouge, on peut l'interpréter en disant, bah voilà, il a cette fois déterminé la limite à ne pas franchir. Mais il y a une autre interprétation de la ligne rouge qui consiste à dire que tant que vous n'utilisez pas les armes chimiques, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et donc, en gros, mener la lutte, massacrer et finalement peut-être prendre le dessus. Ce qui s'est passé après les fameuses lignes rouges, c'est qu'on a très vite constaté que le régime syrien utilisait des armes chimiques. Qu'est-ce que font les Américains? Ils vont au Conseil de sécurité avec un rapport de plus de 1000 pages sur les armes chimiques et ils arrivent à la conclusion qu'il faut quand même introduire un distinguo subtil entre des armes chimiques à proprement parler et l'utilisation de composants chimiques dans des armes conventionnelles. Et la conclusion étant, il y a peut-être des composants chimiques utilisés, mais on n'a pas la certitude qu'il s'agit d'armes véritablement chimiques. Et en réalité, toute la politique d'Obama est une politique de recul, de faux-semblants, dont la dernière expression avait été le lancement de cette conférence de Genève 2, qui à ce jour n'a même pas pu se réunir. Bon, et arrive à ce moment-là le 19 août. Et là, en réalité, Obama est pris de court parce que, je dirais, la preuve du forfait est absolument avérée et qu'il se trouve contraint d'agir. Là, il commence...
Alors même si Poutine, dans le New York Times hein, de cette nuit, dit lui que non, les armes chimiques ont été utilisées par les rebelles.
Oui, mais tout le monde, et là c'est très différent de l'Irak,
c'est qu'on a, simplifier encore les choses.
On a des services, notamment français, qui ont établi d'ailleurs bien avant que ces armes avaient été clairement utilisées par le régime. Là, il décide d'agir, mais d'agir à reculons, avec, il faut bien le dire, une armée américaine fortement hostile à toute idée d'intervention. Et là, je voudrais d'ailleurs, contre une idée dominante qui consiste à voir dans tout ça une affaire d'isolationnisme, moi, je ne suis pas du tout sûr de cela. L'armée américaine n'est pas, de ce point de vue-là, isolationniste. Elle a simplement une priorité absolue qui est la Chine, et tout ce qui la divertira de la Chine est qu'on doit être soit sous-traité, soit pas traité, soit maltraité. Et c'est ce à quoi... on assiste. Pourtant, malgré cette conjoncture, il a quand même deux formidables atouts après le 21. Le premier, c'est que le Congrès n'est pas en session et que la mobilisation potentielle contre ses choix ne s'est pas encore effectuée. Il n'y a pas eu de cristallisation.
C'est pas organisé, quoi.
Deuxièmement, il faut quand même dire qu'il a je dirais, la Constitution avec lui, puisque le War Powers Act ne l'obligeait absolument pas à demander l'avis du Congrès, mais à le notifier, quitte à avoir son soutien au bout de 90 jours. Donc, on a une opinion d'ailleurs qui, au tout début, doute, mais là encore, la mobilisation ne s'est pas organisée. Le fait aggravant est qu'il va pousser Cameron à faire voter son Parlement très très vite, alors que certains membres sont en vacances et que certains membres du cabinet Cameron n'ont pas pu venir et n'ont donc pas pris part au vote, avant bien évidemment de se rétracter en se disant « les Anglais n'y vont pas, les militaires sont contre ». Le Congrès, j'ai l'impression qu'il n'est pas trop pour. L'opinion n'est pas forcément favorable. Et je crois que l'on découvrira, c'est peut-être tragique à dire, qu'en réalité, Barack Obama a pris peur. Alors que pourtant, il avait le soutien de la France et que des frappes américano-françaises auraient pu avoir leur effet. Du coup, nous assistons alors à des réactions qui sont absolument invraisemblables, puisqu'on entend M. Kerry, qui pourtant était un de ceux qui ont le plus poussé en faveur de la guerre, dire qu'on va frapper, mais les frappes vont être incroyablement petites. Incredibly small. Unbelievably small, qui est quand même pas la meilleure façon de frapper ou de faire la guerre.
C'est pas l'orthodoxie du langage diplomatique habituel, en plus.
Et vous voyez que l'on continue dans cette voie, puisque hier, dans son discours, M. Obama a dit « Oui, mais attendez, nous, quand on frappe, c'est pas des piqûres d'épingle. » Donc, ce que vous cherchez à corriger. Et vous lisez d'ailleurs son discours comme des contradictions, mais permanentes, entre, attention, on n'est pas les leaders du monde, on ne veut pas être les policiers du monde, mais depuis 70 ans, la sécurité du monde est entre nos mains. Donc, en gros, se livrer à un exercice quasi impossible, qui est celui de dire notre leadership est là, mais dans cette affaire, c'est très différent. Alors, je voudrais revenir quand même sur l'affaire russe. Parce que tout le monde dit, c'est une proposition russe. Mais qu'est-ce qu'on en sait?
Ça part d'une boutade, même a priori, d'une autre boutade de John Kerry, apparemment.
Le processus est le suivant. Obama découvrant qu'il n'avait absolument aucune chance d'avoir avec lui la chambre. Et d'une certaine manière, ça se comprend, si vous voulez. Quand vous avez quelqu'un qui n'a incapable de définir de vrais buts de guerre, incapable de définir une véritable stratégie, si vous voulez, que la personne soit pour ou contre, elle ne peut pas être rassérénée par le discours d'Obama. Bien. Voyant qu'il perd du terrain, il commence à chercher une porte de sortie. Et à Saint-Pétersbourg, où il avait initialement évidemment refusé de rencontrer en tête à tête M. Poutine, finalement, un entretien a lieu. Et au cours de cet entretien, est discuté, alors par les Russes et les Américains, à l'initiative des Russes ou à l'initiative des Américains, cette idée de contrôle des armes chimiques. Après Saint-Pétersbourg, M. Kerry va à Londres et à la question « Est-ce que vous pensez que M. Assad peut faire quelque chose ?» Il leur dit « Oui, rendre son armement chimique » et il ajoute « Mais il ne le fera pas. »
Oui, ou « Je n'y crois pas ».
Et il ne peut pas le faire.
Il ne peut pas le faire, voilà.
Son staff immédiatement répond « Mais de toute façon, c'était une figure rhétorique. »
Voilà.
Bon. Donc, les États-Unis se sont engagés dans un processus dont ils estiment qu'il ne peut, par définition, pas aboutir. Et je dirais que depuis, les choses se sont aggravées. Parce que, Brice l'a rappelé, la France a proposé mardi un projet de résolution sous chapitre 7, c'est-à-dire un projet de résolution qui prévoit une intervention militaire en cas de non-respect. Immédiatement, bien évidemment, les Russes ont jugé cette résolution inacceptable, parce que c'est tout ce qu'ils veulent éviter depuis le début, mais vous constaterez que les États-Unis ne sont pas venus à la rescousse des Français et n'ont pas voulu prendre d'être les co-sponsors de la résolution française. Bien au contraire, ils envoient aujourd'hui M. Kerry à Genève rencontrer son homologue M. Lavrov, qui n'est d'ailleurs qu'un leurre, puisqu'on sait très bien que la politique russe, elle n'est pas faite par le ministère des Affaires étrangères, mais par le FSB, et par monsieur Poutine. Donc les Américains, en réalité, aujourd'hui, ne cherchent qu'un moyen honorable ou déshonorant de sortir de l'impasse dans laquelle ils se sont eux-mêmes mis.
Brice Couturier.
Je voudrais citer un politologue syrien qui est interviewé par Le Monde d'hier soir, Yassine Al-Hadj Saleh, qui dit la chose suivante. « Depuis quand laisse-t-on un criminel libre s'il se contente de rendre l'arme du crime ?» C'est exactement ce que les Russes nous proposent. Si Assad, qui va mettre 10 ans à rendre ses armes chimiques les rend, alors il devient intouchable. Moi, j'aurais posé la question suivante. Est-ce que les USA, dont il faut se souvenir qu'ils sont devenus cette année les premiers producteurs de gaz au monde, que d'ici la fin d'année, les États-Unis seront autosuffisants sur le plan énergétique, que quand ils achètent encore un peu de pétrole, ils en achètent, c'est de préférence au Venezuela. Est-ce que les États-Unis ne sont pas tout simplement en train de se désengager du Moyen-Orient, où ils ont subi l'affaire irakienne et l'affaire libyenne aussi, parce que leur ambassadeur a été tué? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de se dégager tout simplement du Moyen-Orient en disant « Nous protégeons Israël, quant au reste, débrouillez-vous, entretuez-vous, nous, ça ne nous intéresse pas. » Et est-ce que ce n'est pas à l'Europe? C'est un petit peu le sens du papier dont Marc parlait tout à l'heure, que vous avez publié, Zaki l'a dit, sur Telos. Est-ce que ce n'est pas à l'Europe, peut-être à la Chine aussi, qui sont, eux, largement dépendants des pétroles et des gaz du Moyen-Orient, d'aller y rétablir un minimum de paix et de sécurité pour ces populations?
Zaki l'a dit.
En ce qui concerne le Moyen-Orient, bon, il est clair que la grande priorité stratégique des États-Unis, c'est maintenant la Chine. Et au fond, les Américains ne fonctionnent très bien que dans des schémas précisément schmittiens où il y a un ami et un ennemi. Et là, c'est absolument fondamental. Quand vous lisez la lettre du général Dempsey au représentant Engel le 19 août, c'est-à-dire 3 jours avant, il lui dit très clairement, on peut changer la dynamique sur le terrain, mais au fond, voilà, on n'est pas sûr des gens que l'on va soutenir et on n'est pas sûr que ces gens vont défendre nos intérêts. Ce qui n'est pas en soi d'ailleurs totalement faux, sauf qu'on voit bien quand même que plus on retarde le soutien aux rebelles non-djihadistes, plus la force des djihadistes se renforce.
Je vous cite juste en clair, vous dites, suite à cette lettre de Dempsey, en clair, les États-Unis ont les moyens de renverser le régime, mais ne sont pas sûrs d'être bénéficiaires de ce changement.
Oui, absolument.
La clé, et c'est une des clés, ça, pour vous, de cette diplomatie que l'on comprend mal de Barack Obama.
Oui, mais il y a d'autres éléments. Il y a eu quand même le refus d'armée, l'armée de libération syrienne à la demande de la CIA. Et puis, encore une fois, personne n'avait demandé à M. Obama de définir ses lignes rouges par rapport aux armes chimiques. Mais moi, je crois qu'il l'a fait. Pour, encore une fois, envoyer deux messages. Le premier, c'est qu'il pensait fondamentalement que ce régime rationnel n'y aurait pas recours, et en se disant, bon, je place de toute façon la barre tellement haut que, au moins, je suis sûr que, comme ça, je n'interviendrai jamais. Et il se trouve piégé par des engagements, d'ailleurs, qu'il n'a non concertés. Parce que même la décision invraisemblable de faire appel au Congrès n'a donné lieu à aucune délibération au sein de
Il l'a justifié au cours de son discours là, de la Maison-Blanche d'il y a deux jours, hein, en disant après tout, il faut quand même une démocratie, il faut que je consulte, il faut que je sente qu'il y a un assentiment du peuple ou pas.
Mais pourquoi,
voilà. Il l'a dit. Hein.
Oui, mais pourquoi, trois jours avant, lorsqu'il parle à la télévision, il dit le Congrès est consulté, ce qui était tout à fait vrai, puisque même s'il n'était pas en session, il y avait toute une série de conférences, de vidéoconférences qui étaient organisées avec les membres du Sénat et de la Chambre des représentants.
Agnès Benassi-Carré.
Oui, le monde vit une succession de crises et de conflits, et je voudrais un peu vous interroger sur les aspects intertemporels de cette crise. On dit beaucoup que Obama est victime de l'affaire irakienne, que l'opinion publique n'est pas du tout favorable à une intervention, pour deux raisons. La première, c'est qu'on nous a menti une première fois, peut-être pourquoi pas une deuxième fois, et la deuxième raison, c'est maintenant, quand on intervient, on perd. Et donc ça, c'est l'aspect rétroviseur, mais il y a un aspect prospectif aussi. Quel est l'impact d'une intervention, d'une non-intervention sur les conflits à venir, et dans quelle mesure est-ce que ça intervient dans la décision?
Avec en filigrane ce que l'on dit sur la question iranienne, de fait, la question États-Unis-Iran. Zaki Laïdi.
La conséquence la plus fondamentale, c'est d'abord sur le terrain une situation plus difficile pour l'opposition. De toute façon, les conséquences, il faut les voir dans les réactions des acteurs. Il y en a qui sont contents, mais il y en a qui sont franchement pas contents. Bon, donc localement, on sait très bien que des frappes auraient joué en faveur du rapport de force. Bon, fondamentalement, le vrai problème, c'est celui de la crédibilité de la politique américaine. Je veux dire, un président qui découvre qu'il a un Congrès après avoir dit qu'il frappait, un président qui dit qu'il va frapper et qui dit que oui, mais attendez, il faut quand même privilégier l'option diplomatique, démontre dans cette affaire un manque total de savoir-faire, et je pense qu'on découvrira un jour qu'il a tout simplement pris peur. Oui. Car au fond, on voit maintenant que il va s'enliser dans ce processus diplomatique qui est à peu près conduira à l'échec, parce qu'effectivement, vous avez peut-être dû en parler. Quand on regarde les obstacles phénoménaux au démantèlement des armes chimiques, je rappelle juste que vous avez un précédent qui est le précédent libyen. Le précédent libyen qui a été fait avec l'accord total des autorités libyennes qui effectivement étaient dans une situation difficile en 2004. Eh bien, savez-vous que ce programme qui a commencé en 2004 n'est aujourd'hui pas achevé, que à peine 40% des dépôts de gaz moutarde ont été, désactivés. Bon, que sans paix, sans cesser le feu, c'est tout simplement impossible.
C'est extrêmement dangereux,
de mener,
en plus.
Extraordinairement dangereux. Que les sites de ces armes sont dispersés dans 49 endroits, dont les Américains n'ont connaissance que pour 17 d'entre eux, ce qui demande donc une identification avec l'aimable soutien des autorités légales et de ceux qui savent où tout sur tout, c'est-à-dire nos amis russes.
Mais du coup, Zaki Laïdi, nous allons arriver au terme de cette émission. Est-ce qu'il faut en conclure, de façon plus générale, qu'on assiste à une sorte quoi, de dessillement, de désillusion sur ce personnage de Barack Obama? Ça avait commencé avec Yes We Can, et là c'est
et le prix Nobel de la paix
et le prix Nobel de la paix
Et puis, au deuxième mandat, quoi.
Écoutez,
on voit un mannequin, toujours un nœud de cravate impeccable, tout ça, charmant, qui fait la photo, mais quoi, c'est pas grand-chose au final.
Ça ne dirai pas ça, comme vous savez que j'ai.
Vous n'avez pas l'air d'être très enthousiaste. Oui, vous connaissez
comme
par cœur.
Comme j'ai écrit, et que je ne pense pas avoir fait preuve d'un enthousiasme délirant contre une opinion dominante qui, en France, était absolument.
Confite d'amour.
Confite d'amour. Donc, je ne suis pas extraordinairement surpris. Je crois, du coup, qu'il confirme. Qu'il est profondément un réaliste. Mais et là aussi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Brice. Ce qui me préoccupe beaucoup, c'est le coût que nous, par exemple, payons de son indécision. Parce qu'au fond, il a cherché à nous pousser. Mais
oui, parce qu'en plus, pardon, il y a ironie de l'histoire. Nous étions contre les Américains lors de l'affaire de l'Irak et les Anglais étaient traités de caniches en suivant les Américains. Oui. Aujourd'hui, c'est l'inverse qui se produit, mais qui se produit d'une manière terrible parce que là, on est réellement presque piégé par l'Amérique.
À ceci près que la position française avait été définie, déterminée de manière autonome. Elle était d'ailleurs beaucoup plus allante, puisque nous avons reconnu officiellement l'opposition. La politique syrienne de la France n'a pas été déterminée par la politique américaine. Simplement, lorsqu'il s'est agi d'agir sur le plan militaire, il est clair que nous ne pouvions pas le faire sans les Américains.
Alors, une courte question et une courte réponse.
Oui, je voudrais juste rappeler qu'en attendant, on parle de grande diplomatie entre les Russes, les Américains, les Français et les Anglais, en caniche peut-être. Mais en attendant, 2 millions de Syriens ont dû fuir leur pays pour se réfugier dans des tentes. 2 millions de personnes vivent sous des tentes dans des conditions épouvantables l'hiver approche, dans des pays voisins, frontaliers, comme la Turquie, la Jordanie, le Liban. 120 000 personnes, civiles, enfants, femmes, ont été massacrées. Combien de temps encore on va voir ces images sur nos écrans avant que quiconque bouge s'il n'y a plus de shérif? Alors donc, on est livré à la merci des pires tyrannos locaux, c'est ça?
Mais c'est là que Obama est un réaliste au sens de ce qu'on appelle le réalisme dans les relations internationales, c'est-à-dire qu'au fond, ce qui compte, ce sont les intérêts des États. Et dans la configuration actuelle, les États-Unis ne veulent pas s'engager. Je termine, si vous voulez, juste sur un point qui est, par exemple, la Libye. Dans l'affaire libyenne, où les Américains sont arrivés à vendre cette idée absolument extraordinaire du « leading from behind », c'est-à-dire qu'on dirige par l'arrière. Mais c'est une idée profondément fausse. En Libye, les Américains n'ont absolument pas dirigé. Ce sont les Français et les Anglais qui ont laissé à l'initiative. Et les Américains sont venus derrière pour renforcer l'opération. Mais ils y étaient tout à fait hostiles. Donc, pour savoir si les Européens peuvent agir, malheureusement, tout indique que on a toujours que ces deux pays, qui sont la France et la Grande-Bretagne, qui sont les seuls détenteurs de la force et qui pensent le monde en termes de rapport de force.
Merci Zaki Laïdi de nous avoir rejoints ce matin pour nous éclairer, vous l'avez fait, sur cette question de Barack Obama et de sa diplomatie. Et gageons que vous reviendrez nous expliquer pour la suite, parce que qu'est-ce que va-t-il se passer ? Nul ne le sait. Merci à vous.